7 Kick Saguenay. Le retour de Courchaine.
16h24, on vous rappelle que le rang du fromage est fermé à 1 km de la fromagerie Saint-Laurent. Il y a eu un accident impliquant 4 véhicules. On ne sait pas au moment où on se parle s'il y a des blessés, mais chose certaine, la route est fermée. Encore un accident. Aujourd'hui, Pierre-Alexandre et moi, on a eu l'occasion aujourd'hui de voir ces tristes images de l'accident mortel survenu avant-hier sur le traversier de Tadoussac. On a choisi de ne pas vous les partager sur les réseaux sociaux.
C'est des images dures, là. C'est...
TVA l'ont fait. Alors, juste pour vous le décrire, donc... ce véhicule récréatif, écoutez, je ne sais pas à quelle vitesse il rentrait, mais j'estime la vitesse à environ 200 km/h, qui a descendu la côte de Tadoussac vers le traversier qui quittait vers Baie-Sainte-Catherine, donc en direction ouest. Il a dévalé. Il a fait comme dans les films. Je parlais la semaine dernière de Duke of Hazzard, Shérif, fais-moi peur. On a déjà vu ce genre de séquence-là. Donc, la voiture est poursuivie par des policiers, saute la rampe d'accès au traversier, réussit à atterrir parfaitement sous le traversier. C'est pas ce qui est arrivé avant-hier, malheureusement. Le véhicule récréatif, écoutez, il a volé en 1000 morceaux. Et 5 secondes avant l'impact, il y avait à peu près, je te dirais, 5-6 personnes qui étaient juste sur le bord.
Oui, qui marchaient tranquillement parce que eux, le bateau était parti, donc ils s'attendaient pas à ce qu'un VR débarque du ciel.
Il y a une dame là, qui a eu à ses pieds là, donc un panneau solaire. Mmh. Écoutez, ça a été un miracle qu'il n'y ait pas eu plus de morts. Au moment où on se parle, le conducteur, un Lavallois de 40 ans, est décédé. On n'a toujours pas de nouvelles de la personne qui l'accompagnait qui était dans un état très grave. Cela dit, on a eu beaucoup de questions. Entre autres, là, il y a quelqu'un qui nous écrit là, hier... Bon, concernant l'accident du motorisé à Tadoussac, est-ce que le conducteur aurait pu, un, se servir de la compression du moteur, donc passer le bras de vitesse de D à 3, 2, 1, ensuite, se servir de son frein à main, couper le moteur avec la clé du contact en laissant le bras de vitesse sur D. On nous demande de nous informer un expert là-dessus. Ben, quand vous nous demandez de s'informer, ben, on le fait. On a Frédéric Lafleur, qui est président de l'Association des mandataires en vérification mécanique du Québec, qui est en bout de ligne. Bonjour, M. Lafleur.
Bonjour, ça va bien?
Oui, ça va bien. On me dit que vous êtes vous-même propriétaire d'un véhicule récréatif?
Oui, propriétaire d'un véhicule récréatif, et puis président de l'association et propriétaire de l'atelier mécanique qui fait l'entretien et la réparation des véhicules récréatifs, effectivement.
Qu'est-ce que vous auriez fait dans telle situation? Est-ce que vous avez eu le temps d'analyser ce qui s'est passé? On dit que c'est quand même un geste héroïque parce que si le conducteur du véhicule récréatif avait agi autrement, il y aurait eu peut-être des dizaines de morts, un peu comme on a vu aux éboulements en 1997. Quelle est votre analyse, M. Lafleur?
Bon, c'est sûr que j'étais pas au volant de son véhicule. C'est difficile de prendre une telle position. Par contre, pour avoir déjà utilisé la route à cet endroit-là, même dernièrement, dans les dernières semaines, avec mon véhicule personnel, je me suis dit au début, comment ça se fait qu'il n'a pas été capable de s'immobiliser avec d'autres moyens? Bon, ben exactement, avec en s'envoyant peut-être à gauche ou à droite. Hier, en écoutant les nouvelles à différents postes de télévision, il nous expliquait qu'il pense quand il a manqué de frein ou qu'il y a eu un problème de mécanique de freinage, il a utilisé pour éviter un impact la voie de gauche, qui est la voie sens inverse, qui l'a dirigé directement vers le traversier. Mm-hmm. Vous l'avez dit tantôt, il aurait-tu pu éteindre le moteur, faire la compression? Je pense qu'éteindre le moteur aurait été la pire des choses. Y a-tu manqué de frein? Il va falloir qu'à un moment donné, on ait des réponses à nos questions, à savoir qu'est-ce qui est vraiment arrivé. Mmh. C'est-tu un système de frein qui a tombé en panne côté mécanique, donc une mauvaise entretien ou des mauvaises pièces ou un mauvais assemblage ou une fuite de liquide de frein? Ça, c'est quand même un véhicule qui a une trentaine d'années, là. C'est pas la technologie d'aujourd'hui, là.
Ouais, d'ailleurs, est-il vrai qu'il y a une trentaine d'années, les inspections étaient obligatoires sur ce type de véhicule?
Dans les années 1988-9-10, les inspections mécaniques étaient obligatoires sur les véhicules récréatifs, tout comme aujourd'hui les véhicules lourds.
OK. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, parce que là, le véhicule là, qu'on a vu là, dévaler là, la pente, la côte à Tadoussac, là, on parle d'un véhicule d'environ 6500 kilos. Tantôt, il y a des gens qui nous ont texté, ils ont dit hey, « Moi, j'ai un F-350, je suis obligé de le faire inspecter à chaque année. Oui. » Il me semble que c'est deux poids, deux mesures.
Tout à fait. C'est aberrant parce que, en plus, les propriétaires de ces véhicules-là, pas tous, mais plusieurs, connaissent pas cette mécanique-là. entrepose des véhicules récréatifs sur le gazon, dans le gravier, au terrain de camping, sortent une fois, deux fois, peut-être plus, mais l'entretien est souvent négligé. Puis si elle ne l'est pas, ben, est faite par qui? Ouais. Est faite par lui-même qui est capable de changer ses pneus puis peut-être être capable de changer ses freins. C'est vraiment spécial au Québec. C'est bien qu'il n'y ait pas arrivé d'accident grave avant aujourd'hui, depuis le temps qu'il n'y a plus d'inspection mécanique sur ces véhicules-là qui sont lourds, surchargés, parce que les gens mettent leur bagage, leur eau propre, ils prennent aussi de l'eau sale, des réservoirs, le gaz propane, l'essence, le manger, ça, le truc. Un véhicule de cet âge-là, pas d'inspection mécanique, c'est vraiment aberrant. Le pourquoi, ben la SAC nous a déjà dit qu'il y avait... On pense que c'est plus du lobbying dans les années 90 qu'il y avait eu, mais ils n'ont pas de statistiques. Quand on parle avec les gens de la SAC, ils nous disent, ben tu sais, si on n'a pas de statistiques et qu'il n'y a pas rien qui arrive, pourquoi qu'on s'en irait vers un tel programme?
Ouais.
Nous, à l'association, ça nous interpelle énormément. On connaît ça, on inspecte des véhicules, on en voit dans nos ateliers. On avait un de nos membres, cette semaine, qui m'envoyait des photos avec une vidéo d'un véhicule dans son atelier, dans un état pitoyable. Le monsieur vient de l'acheter, ça fait 3 jours. Ouais. Il n'était pas là pour une vérification mécanique. Là.
Ouais.
Une simple petite réparation de routine, le véhicule dans un état.
Ouais. Il y a un auditeur qui nous a pris à partir en début d'émission en disant « Voyons donc, vous faites peur au monde, puis les gens, ils vont régulièrement pour faire respecter la garantie. » Mais ce que je disais en contrepartie en onde, c'est qu'un véhicule récréatif neuf peut coûter dans les 6 chiffres. Donc, il y a énormément, puis vous nous le confirmez, de véhicules récréatifs qui ont de l'âge, 10, 20, 30 ans. C'est pour cette raison-là qu'une inspection mécanique serait nécessaire.
Tout à fait, tout à fait. Puis, c'est pas en montant une côte ou en descendant une côte ou en faisant notre changement d'huile au garage du coin, on va être rassuré puis que l'inspection faite par des professionnels pourrait déceler des problèmes mécaniques. Là, c'est pas un petit changement d'huile ou un changement de pneu qui va être capable de déceler de telles anomalies mécaniques.
Ouais. Et à combien ça peut coûter? Parce que là, je suis convaincu qu'il y a des centaines d'auditeurs, des milliers d'auditeurs qui sont propriétaires de véhicules récréatifs. Les vacances s'en viennent. Qu'est-ce que vous leur conseillez? Combien ça peut coûter? Moi, là, quand sur mon véhicule personnel, là, qui n'est pas un véhicule récréatif, là, une petite sous-compacte, ça peut coûter $100 pour faire vérifier là, à 150 points. Est-ce que c'est vraiment plus cher pour un véhicule récréatif? Parce que c'est quand même un investissement qui peut sauver des vies.
Pas tellement. Le côté mécanique, si on oublie le côté... la maison, là. Si on oublie la tuyauterie, égout, toilette, lavabo, ces choses-là, une inspection mécanique en moyenne chez nos membres vont varier entre 125 et $200. Bon. L'inspection mécanique de la SAC, elle se situe dans ces montants-là. L'inspection de routine également. Si la SAC remettait les inspections obligatoires, on parlerait d'environ 130-150 de frais annuels pour faire passer notre inspection mécanique. Mais qu'on parle de 100, 200, 300, 500 pour une vie, puis ça aurait pu être 5, 6, 7 vies là, si le traversier avait été OK. Là, ça aurait été une catastrophe. Là. Ça aurait été toute une catastrophe. Là.
T'sais, on parle de l'entretien des VR, mais moi, je pense aussi, t'sais, souvent sur des véhicules, on se rend compte que l'usure des pneus est vraiment à la corde. Les gens font pas attention à ça. Côté VR, est-ce que vous pensez que ben chez vos membres, est-ce qu'on fait attention à ça? T'sais, ou il y en a certains qui se disent, garde, on est parké tout l'été, ça bouge pas de là, mes pneus, j'ai pas besoin de les changer. Y a-t-il une problématique de ce côté-là?
Les propriétaires qui nous écoutent vont se reconnaître. Souvent, ils vont dire, bon, ben mes pneus sont beaux, les rainures sont encore belles. Je n'ai pas beaucoup de kilométrage, j'ai 5-10 000 kilomètres, mais c'est le contraire, le pneu, il a séché, il est craquelé d'un côté, souvent par l'intérieur, les propriétaires ne peuvent pas le voir, c'est pour ça qu'on recommande, puis je continue à le dire, ça prend des inspections mécaniques, là, c'est dangereux, là. Si on parle de ces pneus-là, c'est comme les freins, là. Ouais. C'est pas en regardant dans le cadre de la roue qu'on va être capable de dire si nos freins sont en bon état ou pas, là.
Ouais, et en terminant, M. Lafleur, vous nous conseillez d'aller chez des gens qui connaissent ça. Vous le disiez, là, c'est pas nécessairement le garage du coin. Quand on a, je le mets en parenthèse, un poids lourd comme ça, un véhicule récréatif de 6500 kilos et de 30 pieds, je suppose qu'il faut aller voir des gens spécialisés.
Les spécialistes dans le poids lourd, les mandataires en vérification mécanique, nos membres sont, la majorité sont spécialistes dans ce domaine-là. Il y a les ouvriers qui t'ont vraiment spécialisé dans le camion. Ça prend une porte de garage qui est capable de l'accueillir. Donc, normalement, tu amènes ce véhicule-là. Je vous conseille fortement aux auditeurs de faire vérifier leur véhicule avant les vacances.
Bien, M. Lafleur, je trouve que le timing est excellent, justement, les vacances qui s'en viennent. Merci beaucoup d'avoir sensibilisé nos auditeurs. Merci. Bonne journée. Frédéric Lafleur est président de l'Association des mandataires en vérification mécanique du Québec. Et tant qu'à moi, PA, je trouve que c'est une aberration de voir que ces véhicules-là, qui ont un poids d'environ 6500 kilos, qui mesurent 30 pieds, alors qu'on a un auditeur qui nous appelle tantôt, qui a un pick-up, un F-350, qui lui doit le faire inspecter à chaque année. C'est un pick-up, là.
Mais oui,
ils sont dit, c'est un gros pick-up. Je ne comprends pas. Il nous l'a confirmé à la fin des années 80, c'était obligatoire. Je ne comprends pas pourquoi au Québec, parce que dans certaines provinces, tu sais que c'est obligatoire. Je ne comprends pas pourquoi on ne force pas justement les propriétaires de véhicules récréatifs. Puis, tu sais, quand tu as un moyen d'investir, un véhicule récréatif, là, on va se dire les vraies affaires, en bas de 50 000. Là,
non, c'est pas donné, rien. Là.
Fait que quand tu es en mesure d'investir 150, 200 000 dans un véhicule récréatif, t'as les moyens, Monsieur Lafleur nous le dit, t'as les moyens de débourser 150, 200 $ sur une base annuelle pour être certain que tu vas pas risquer ta vie et celle des autres.
Pis surtout que l'autre problème, ça, je me posais la question même avant l'accident, je suis pas en train de dire qu'on parle ici d'un conducteur qui avait pas d'expérience, mais au Québec, on donne le volant de VR comme ça à des gens qui n'ont aucune expérience et qui n'ont aucun permis spécial. Parce que je me rappelle, en début d'été, je voyais des gens qui circulaient à Saguenay avec leur VR, puis ça avait de l'air compliqué. On prend les coins, puis on vire, ça prend une heure, on n'est pas capable. Les gens n'ont pas d'expérience au volant de ces appareils-là non plus, mais on leur demande aucune spécification. Donc, en plus que des fois, ils ne sont pas en ordre, ben des fois, ils conduisent sans avoir les, comment je pourrais dire, les capacités nécessaires pour les conduire, ces véhicules-là.
Énormément de réactions côté texté ou au téléphone. On en a parlé en début d'émission, les lignes étaient pleines. Si vous avez manqué le début de cette entrevue, on va la propulser à la fin de notre émission sur la page de la station et sur notre page Facebook. Oui. Mais je pense que c'est important le travail qu'a fait M. Lafleur au cours des dernières minutes.